14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Le meurtrier présumé de Léo Roupiot, Gisèle Kunstler et Michel Fabrice, assassinés lundi au Grand Hôtel de Saint-Quentin, court toujours. Jean-Baptiste Henquin est activement recherché sur tout le territoire français.
Bonjour. Que s'est-il passé dans la tête de Jean-Baptiste Henquin pour qu'il commette le plus effroyable et le plus déterminé des massacres? Lui seul aurait pu peut-être le dire, mais il a gardé jalousement secrètes les raisons pour lesquelles il a écrit, lui, l'homme cultivé, raffiné, ce conte froid comme une journée d'hiver, illustration parfaite d'une névrose pour laquelle ce personnage a toujours refusé d'être examiné par les experts psychiatres, un cas rarissime dans l'histoire de la cour d'assises. 35 ans après les faits, l'affaire Jean-Baptiste Henquin conserve ainsi une grande part d'inconnu et de mystère. C'est cette expédition sanglante, une explosion de frustration et de ressentiment, comme le décrira un enquêteur, que nous avons choisi de vous raconter aujourd'hui. Histoire qui, malgré le temps, hante toujours les imaginations et les souvenirs des témoins. Que s'est-il passé dans la tête de cet homme pour qu'il décide de se faire justice et de punir des innocents? Nous verrons si nos invités et acteurs de cette histoire peuvent apporter aujourd'hui une réponse à cette question centrale.
14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
Au programme aujourd'hui de l'heure du crime, l'affaire Jean-Baptiste Henquin, le nom de ce sexagénaire pointilleux, proche de la retraite, va faire la une des journaux à l'hiver 1997. Après la découverte d'un terrifiant massacre dans un hôtel de Saint-Quentin, dans l'Aisne. Lundi 20 janvier 1997, aux alentours de 10h15, la lingère et un employé d'entretien du Grand Hôtel, rue Dachery à Saint-Quentin, sont dans l'impossibilité de pénétrer dans le bâtiment. Situation pour le moins curieuse, ils ont trouvé porte close. Le téléphone de cet hôtel réputé, 24 chambres luxueuses et son restaurant gastronomique, le président, le téléphone ne répond pas. Les employés alertent alors le directeur de l'établissement voisin, l'Hôtel de la Paix, qui appartient au même propriétaire. Un pass permet d'ouvrir la porte. Le Grand Hôtel est plongé dans le silence et une quasi-pénombre. Personne à l'intérieur. Les employés montent à l'étage où le propriétaire, Léo Roupiot, dispose d'une suite dont il a fait son appartement. En entrant, le spectacle est saisissant. Le corps de Léo Roupiot, 72 ans, gît sur le sol dans une mare de sang. À ses côtés est allongée sur la moquette sa maîtresse, mais aussi gérante de l'établissement, Gisèle Kunstler, 66 ans. Les deux victimes ont reçu de violents coups sur le crâne, portés sans doute par un hachoir de boucher ou une hachette. Le commissariat de Saint-Quentin est aussitôt prévenu. Des gardiens de la paix bouclent les lieux. Les hommes de la police judiciaire de Lille et d'Amiens sont rapidement sur place. Dans l'hôtel désert, les premiers enquêteurs avancent avec précaution. Les employés disent ignorer où se trouve le réceptionniste, la réceptionniste qui aurait dû être à son poste, ainsi que le garçon d'étage, le groom, qui lui aussi manque à l'appel. Les pièces sont passées en revue. Les 8 chambres qui étaient occupées sont vides. Les lits encore défaits. Les clients ont tous pris leurs affaires et leur petit déjeuner. Ils sont partis en ignorant très certainement le drame qui venait de se jouer à quelques mètres deux. Les policiers visitent ensuite les sous-sols, dans la cave à vin, où elle a sans doute été entraînée de force. Ils découvrent le corps de Michel Fabrice, 32 ans, la réceptionniste. Elle aussi a été frappée à coups de hachette. Elle aussi, comme Gisèle Kunstler, a reçu une balle de calibre 22 long rifle à la base de l'oreille droite. La douille est toujours sur place. Pas très loin de là, dans la réserve, les enquêteurs tombent sur le groom, Philippe Bertrand. Le jeune homme est choqué. Il dit avoir été jeté dans cette pièce exiguë à son arrivée à l'hôtel à 7h du matin par le veilleur de nuit, Jean-Baptiste Henquin. Ce dernier, très excité, lui a dit qu'il avait tué tout le monde, mais qu'il allait l'épargner à cause de son jeune âge. Henquin a refermé la porte de la réserve et a disparu. Le patron, la gérante et la réceptionniste du Grand Hôtel ont tous été tués de la même façon. Gisèle Kunstler semble être la seule à s'être défendue. Elle tient encore des touffes de cheveux de l'agresseur dans ses mains. Meurtre sauvage, entouré d'un rituel identique sur les corps des victimes. Le meurtrier a déposé des notes manuscrites vengeresses sur celui de Léo Roupiot qui s'apprêtait à partir en vacances en Thaïlande. Il est ainsi écrit « C'est ton dernier voyage à Bangkok ». Notre mot laissé sur la caisse où officier Michel Fabrice indique que le contenu a été emporté pour que soit réglé le 13e mois. L'argent des victimes, un peu plus de 20 000 francs au total, et leur carte de crédit ont été emportés. Le suspect numéro 1, Jean-Baptiste Henquin, a disparu. Il n'est pas chez lui. Son modeste studio de la rue de l'Est, dans le quartier de Remirecourt, est en flammes. La traque du meurtrier présumé du Grand Hôtel est lancée. Le veilleur de nuit était un homme sans doute ombrageux et très solitaire. Il est en cavale. Pas facile de retrouver rapidement sa trace. Mardi 21 janvier 1997, lendemain de la découverte du massacre au Grand Hôtel, le juge de Saint-Quentin, Jean-Yves Lourgouillou, est désigné pour instruire le dossier. Le but est de retrouver au plus vite le suspect numéro 1, le veilleur de nuit Jean-Baptiste Henquin, mais aussi de connaître le plus précisément possible le déroulement des faits. Il est établi qu'au cours de la nuit, le meurtrier s'est tout d'abord introduit dans la suite occupée par le propriétaire de l'établissement grâce à un passe magnétique. Il a commis là les deux premiers meurtres, celui de Léo Roupioz et de la gérante Gisèle Künzler. Les enquêteurs évoquent dans cette suite à la moquette et une folie meurtrière, tant les coups portés étaient destinés à faire éclater les crânes des victimes. Henquin a ensuite attendu l'arrivée de la réceptionniste Michel Fabrice pour lui sauter dessus, la traîner de force dans la cave à vin et la tuer. Il a ensuite enfermé le groom dans la réserve et l'a épargné. Dès 7h30, comme si de rien n'était, Henquin a servi tout seul les petits déjeuners aux clients, a encaissé les notes. Au chef de cuisine, passé rapidement pour préparer les commandes, il a expliqué et qu'il devait se taper tout le boulot. Ses collègues étaient souffrants ou en congé. Il apparaît que sur le registre du personnel, le veilleur de nuit a noté avec un terrifiant cynisme que les absences de Michel Fabrice et Gisèle Künzler étaient définitives. La police judiciaire essaie de localiser Jean-Baptiste Henquin. Les premières recherches effectuées dans les gares, auprès des compagnies de cars et de taxis, dans les hôpitaux, les foyers, les hôtels, ces recherches restent vaines. Il apparaît que l'individu n'a qu'un cercle restreint de connaissances. Il n'est pas dans sa nature d'aimer le contact et de se lier d'amitié avec le premier venu. Ceux qui le connaissent sont discrètement placés sous surveillance, mais il apparaît très vite que ce travail ne portera pas ses fruits. Henquin, qui n'a aucune fortune et vivait plutôt chichement avec son maigre salaire, est parti avec l'argent de ses victimes et une partie du fonds de caisse, mais il ne pourra pas subsister très longtemps avec ce pécule. Il se déplace sans doute à bord de la Volkswagen Polo, dérobée à la réceptionniste, le 29 janvier, une semaine après le triple crime. L'Apollo est retrouvé à Amiens, près du boulevard Carnot, non loin de la gare. Dans le coffre, il est retrouvé la hachette qui a servi au massacre. Elle avait été acquise plus d'un mois auparavant dans une quincaillerie de Saint-Quentin. Les enquêteurs craignent que Jean-Baptiste Henquin se soit enfui à l'étranger. Il a pu, depuis la gare d'Amiens, se rendre aisément en Angleterre, un pays qu'il connaît bien et dont il parle parfaitement la langue. Il a travaillé pendant 11 ans comme jardinier à Londres. Après la publication d'un avis de recherche, les témoignages sont passés au tamis. Henquin aurait été vu à Paris, notamment dans le quartier latin. Mais impossible de localiser le veilleur de nuit au visage émacié et aux cheveux gris. Il semble avoir disparu de la circulation jusqu'au 22 mai 1997. Ce jour-là, un vol est signalé par le patron de l'hôtel de la Nouvelle-France dans le 10e arrondissement de Paris. Un client qui loge ici depuis le mois de janvier, un certain Jean Dampierre, est soupçonné. Les policiers trouvent dans sa chambre une 22 longs rifles, réplique de fusil d'assaut américain, 13 cartouches, 3 coupures de presse sur le drame de Saint-Quentin. Jean-Baptiste Henquin, alias Jean Dampierre, est arrêté. Le veilleur de nuit est mis en examen pour 3 assassinats et la séquestration du groom. Le juge va avoir tout le loisir de faire connaissance avec le suspect et de savoir ce qui l'a poussé à commettre le pire. En ce mois de juin 1997, Jean-Baptiste Henquin est entendu par le juge Lourgouillou. Il ne scie pas et ne montre aucune émotion lorsque le magistrat détaille l'horreur des crimes perpétrés à l'étage et au sous-sol du Grand Hôtel. Il s'avère que pendant des mois, peut-être même des années, Henquin s'est recroquevillé dans une haine indicible vis-à-vis de ses employeurs et de sa collègue réceptionniste. Ainsi, il ne supportait plus aucune remarque de la gérante Gisèle Kunstler, réputée pour son intransigeance. Il n'hésitait pas à lui répondre sur un ton excédé et agressif. Léo Roupioz, le propriétaire, n'avait pas apprécié cette attitude et multipliait les avertissements à l'encontre du veilleur de nuit. Le 13 janvier, soit une semaine avant les crimes, Roupioz l'avait menacé par lettre de le mettre à la retraite. Le 18 janvier, il avait rédigé une deuxième lettre, non envoyée, dans laquelle il lui reprochait un langage grossier, diffamatoire, concernant Michel Fabrice, la réceptionniste. Henquin détestait ses rires et ses sourires. Il a soupçonné d'être une cafteuse, de rapporter ses moindres faits et gestes au couple de patrons. Jean-Baptiste Henquin, amoureux de littérature et de botanique, n'en est pas à son premier accès de violence. Il avait été renvoyé d'un hôtel 5 ans auparavant pour son irascibilité. À Saint-Quentin, il menaçait régulièrement les voisins dont il ne supportait pas les aboiements des chiens. Il les menaçait au téléphone, la nuit.
Dès qu'il est arrivé dans la rue, il a eu des problèmes avec tous les voisins. Bon, avec nous, c'était des conflits permanents puisque ce monsieur qui travaillait de nuit n'acceptait pas du tout que les voisins vivent le jour, en fait. Donc, c'était des insultes. Ils sont allés jusqu'aux menaces de mort, disons-le, hein, puisqu'il m'a personnellement dit que ça finirait mal, etc.
Par le passé, il avait déjà été condamné pour violence contre son ex-femme, qu'il avait un jour tenté d'étrangler, contre également un travesti du bois de Boulogne, à qui il avait crevé un œil. Tout le monde décrit Henquin comme un grand paranoïaque qui se sentait cerné par une armée de détracteurs. Même s'il continue de refuser l'examen des psychologues et des psychiatres, le veilleur de nuit va être renvoyé devant une cour d'assises. Lequel de ces deux visages, celui de l'homme cultivé ou de l'homme violent, va-t-il présenter ? Ce 16 juin 1999, Jean-Baptiste Henquin, 64 ans, grand et élancé, cheveux poivre sel soigneusement coiffés, costume 3 pièces impeccable, lunettes cerclées de métal, prend place dans le box des accusés de la cour d'assises de l'Aisne à Laon. L'ex-veilleur de nuit du Grand Hôtel ne cherche pas vraiment à figurer sous son meilleur jour. Lors des débats, il apparaît d'emblée comme un homme misanthrope qui méprise les médiocres, les jeunes serveuses qu'il voit comme des écervelés, un personnage qui s'est laissé submerger par une vague de détestation. Il fait front sans jamais baisser les yeux face aux témoins, aux jurés, aux parties civiles. Il accuse le propriétaire de l'hôtel d'indifférence. Madame Gisèle Kunstler, est-elle présentée comme une femme humiliante qui voulait tout régenter ? Quant à la réceptionniste, il lui reproche sa manière de glousser et de ricaner quand il était persuqueté. La déposition de la mère de la victime ne semble absolument pas l'émouvoir. Difficile de savoir qui se cache vraiment derrière le visage impassible de Jean-Baptiste Henquin. Un homme qui ne s'excuse pas et n'a aucune difficulté à évoquer les corps ensanglantés laissés derrière lui. Impossible de savoir si l'ancien veilleur de nuit présente ou non des failles psychiatriques. Il a refusé toute expertise psychologique qui aurait pu aider à cerner ses obsessions et ses névroses. Même son avocate regrette ce refus pour cet accusé venu, dit-il, devant la cour d'assises avec sa loyauté. Le 18 juin 1999, Henquin est condamné à la perpétuité avec une peine incompressible de 22 ans. Le gardien de nuit et tueur de 3 personnes va rejoindre pour de très longues années la prison avec l'espoir peut-être de pouvoir demander sa libération à partir de 2021. En cette année 2017, Jean-Baptiste Henquin, désormais âgé de 81 ans, attendrait son heure pour pouvoir sortir bientôt de prison. Une perspective qui, malgré les années, semble toujours effrayer les familles des 3 disparus. L'un des avocats des parties civiles, Maître Antonini, décrit alors un criminel qui se porte comme un charme. L'idée d'une remise en liberté un jour de Jean-Baptiste Henquin est à la fois inimaginable et insupportable pour les familles, indique l'avocat qui ajoute de la façon la plus sérieuse. J'espère que quand il sortira, ce sera pour aller directement au cimetière. Stéphane Fabrice, qui lors du massacre avait perdu son épouse, Michel, la réceptionniste, reste lui aussi sous le choc et ne peut imaginer le meurtrier en liberté. Il confie au journal Le Courrier Picard qu'il n'a jamais fait le deuil de ce drame. Jean-Baptiste Henquin n'est finalement jamais sorti de prison. Il s'est éteint avant d'avoir pu retrouver la liberté, sans avoir livré ses pensées les plus intimes et les plus secrètes, emporté par sa colère. Le Grand Hôtel, lui, a fermé ses portes en 2019.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.